Très bien, alors on va commencer avec quelque chose d'assez simple. On va commencer par, comme c'était promis, par du GIF animé. Donc le site statique pour démarrer. Donc encore une fois, merci à nos sponsors. Donc d'abord, on va le faire, le site statique, dans un compte de stockage, et puis ensuite, on va le mettre dans Websites. Alors, le compte de stockage, c'est un élément, en fait, je commence par le compte de stockage, pas parce que c'est forcément la meilleure façon d'héberger un site web, mais parce que c'est aussi l'occasion de parler de ce compte qui va être au centre de pas mal de choses. C'est là où on va retrouver par exemple les logs, comme on verra en fin d'après-midi. C'est là où on va avoir aussi un moteur NoSQL comme les tables qu'il y a en premier élément. On peut également avoir depuis pas très longtemps, ça fait partie des 69 nouveautés des fichiers de façon avec un partage SMB. Donc voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la partie blob. Et comme ces blobs, ils sont accessibles en REST. Eh bien, une des façons d'accéder en REST au Blob Storage, c'est d'y accéder en HTTP depuis un navigateur, et donc d'accéder à un site statique de cette façon-là. Donc, voyons comment est-ce qu'on peut faire ça. Alors, j'organise un peu mes papiers. Voilà. Très bien. Donc, alors déjà, comment est-ce qu'on crée un... Alors, je vais montrer un tout petit peu depuis le nouveau portail, et puis ensuite, on va revenir au portail nouveau. Donc là, on voit les différents montants, etc., qui sont en cours. Et puis, ici, je vais pouvoir aller, comme dans le portail actuel, dans New, et puis dire, je veux créer un compte de stockage. Et depuis ce compte et dans ce compte de stockage, donc je lui donne un nom. Donc par exemple ici nom du compte que je choisis. Donc il faut qu'il soit unique. Donc .core WindowsNet. Donc ça va être blob core WindowsNet pour les blobs. Et puis après je vais pouvoir choisir différents éléments et entre autres ici. Je vais pouvoir dire, est-ce que je veux un compte qui est géorépliqué ou simplement redondant en local, c'est-à-dire est-ce que je veux que ce compte soit répliqué au sein du data center principal que je choisis, donc là en l'occurrence je suis en North Europe, c'est-à-dire à Dublin, ou est-ce que je veux qu'il soit géoredondé, donc dans ce cas-là dans un autre data center qui est à Amsterdam. Soit je veux qu'il soit redondé et qu'en plus je puisse lire le contenu qui est de l'autre côté. Donc en l'occurrence, la suite de la démo va se faire sur un compte qui a été créé comme celui-ci. Donc je vais vous le montrer. Alors, je vais vous le montrer dans ce portail-là. Voilà. Et il s'appelle Storage. Alors, hop. Alors vous allez voir dans mes noms de... pardon, je vais dans le storage. Est-ce qu'il est ici? Le storage. Donc vous allez voir dans mes noms de storage ou d'éléments Azure aujourd'hui, j'ai mis pas mal de 24.6 comme 24 juin. Donc là, par exemple, il s'appelle Storage X24600. Donc j'ai un dashboard, etc. Et dans le dashboard, j'ai entre autres l'URL du Blob Storage qui doit être... Enfin, en tout cas, on voit qu'il est géorépliqué là, avec un Enable with Secondary Read Access qu'on voit ici. Donc sa région principale, c'est North Europe, et sa région secondaire, c'est West Europe. Donc voilà, très bien. Donc je peux le voir aussi avec un outil comme Cloud Explorer qui est ici. Donc là, stockage, voilà. Et dedans, j'ai quelques contenus. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un site statique. Je vais dire, par exemple, je vais faire site statique ici. Hop, je crée un conteneur. Donc c'est un répertoire de premier niveau. Site statique, et puis je vais aller faire du drag and drop de mon contenu de fichier statique. Donc là, j'ai un site statique ici. Je prends ça et je fais un drag and drop ici. Donc ça copie dans mon site statique. Donc là, ça fait un upload pas très rapide, mais j'aurais dû me mettre en filaire peut-être. Et donc, on a une. Alors, si on rafraîchit ici, on a une URL. Alors ici, là, j'ai pris un Cloud Explorer, donc qui est un des utilitaires, mais on peut évidemment également le faire depuis le portail Azure. On peut voir le contenu du conteneur. On peut aussi aller en PowerShell. On peut faire l'upload en PowerShell. On peut le faire en C#. Enfin, on peut le faire en REST aussi, etc. Ici, donc c'est d'ailleurs ce que cet outil fait là, fait ici. Donc maintenant, si je prends l'URL qui est ici et que je l'ouvre dans un navigateur, hop, voilà. Donc je vais avoir un 404 parce que par défaut, évidemment, il faut avoir accès, enfin il faut signer la requête avec la clé du compte de stockage pour pouvoir y accéder. Donc en fait, ce que je vais faire ici, c'est que je vais retourner ici, et à ce niveau-là, je vais aller mettre dans les policies le fait que je veux avoir un accès en public read access. Okay, là. J'ai un collègue qui est en train de m'appeler, mais je pense que je ne vais pas répondre. Alors, tac, voilà. Et maintenant, je fais un refresh. Hop. Et alors, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas? Ctrl-X. Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Hop. Public read access. Zut, si je le mets dans Bing, ça va pas aller. On est plutôt là. Voilà, donc j'ai ce site statique assez merveilleux qui est ici. Donc il y a une fonctionnalité particulière qui est que je peux, si je veux, cliquer sur attendre, et dans ce cas, j'ai le GIF animé, où je peux effectivement avoir. Et donc là, j'ai un site statique, effectivement, puisque j'ai que du JavaScript, de l'HTML et du GIF animé, comme promis, et je peux cesser d'attendre quand j'en ai marre, donc c'est un site assez pratique. Donc après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déployé la même chose, mais dans DollarRoute. Donc là, c'est un storage particulier. Et donc là, ça me permet d'accéder directement, comme c'est DollarRoute, en fait, à index.html, ici, à ce niveau-là. Hop. Et là, je vais, plutôt que d'avoir à mettre absolument le répertoire ici, je vais avoir index.html. Donc là, j'ai la même chose avec mon site qui est ici. Après, j'ai mon site qui est également géorépliqué. Donc en fait, je peux aller regarder dans Secondary qui est ici. Et je vais avoir également la même chose, puisque le contenu que j'ai mis, je vais le retrouver de l'autre côté. Donc le temps que ça se réplique, vous pourrez essayer aussi avec site statique tout à l'heure ici. Alors il n'est peut-être pas encore arrivé, puisque c'est une réplication asynchrone, s'il est arrivé là, donc c'est bon. Donc je l'ai de l'autre côté également. Et puis on peut également mapper des noms de domaine, donc par exemple faire site 1.34.fr. Alors un point intéressant, si je vais à la racine, je vais rien avoir du tout parce que je peux pas lui dire que par défaut c'est index.html. Donc il faut absolument que je rajoute index.html, qui est un des inconvénients de l'hébergement du site statique sur les blob storage. C'est d'ailleurs le principal inconvénient. On peut mettre du CORS aussi pour du cross-domaine, hein, pour les navigateurs modernes. Et puis voilà. Donc voilà en gros pour la partie blob storage ici. Alors. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on mettrait ça dans websites alors que ça marche pas mal en fait dans les blob storage? Alors plusieurs choses, les I/O, le système de tarification des blob storage se fait en fonction des I/O, c'est-à-dire à chaque fois que je fais un get, en fait, je vais avoir un paiement. Donc au bout de 10 millions de get, je crois, on a $1. Donc bon, si c'est un site qui est très très occupé, on peut éventuellement vouloir le mettre dans website, ou de la tarification différente. Surtout le fichier à la racine avec le slash. Et puis donc là, le fait de ne pas avoir à mettre slash index.html, puisque effectivement c'est quand même pas mal d'avoir un site web normal. Et puis également le domaine spécifique en HTTPS. Là, je pourrais pas faire HTTPS site 1.34.fr. Donc voilà. Donc en fait, on va déployer ça également dans Websites, qui est l'occasion aussi de montrer comment est-ce qu'on crée un nouveau website. Donc on peut le faire depuis le nouveau portail. Donc je ne vais pas vous le montrer pour des questions de temps. Et depuis ici aussi, donc là on peut choisir soit Quick Create et puis on crée un site, un website comme ça directement et hop, on se retrouve avec son site web. Une fois qu'on a créé son site web, donc on va le faire. Dès qu'on a par exemple alors un site web exemple. Exemple, par exemple, un site web exemple. Voilà, très bien. Donc ça se crée assez vite. Après, il faut juste le retrouver ici. Impeccable. Voilà, donc il est créé. Et dedans, j'ai entre autres l'adresse d'un site FTP sur lequel je peux aller uploader mon site. Donc là, je vais dans voilà, un site exemple, FTP, et puis j'ai les deployment credentials aussi que je vais regarder après. Alors, hop, donc ça, je mets ça dans FileZilla, par exemple. Donc voilà, tac. Alors ensuite, le user, donc c'est un site exemple anti/slash bingegin. Voilà, le mot de passe qui est commun à plusieurs sites. Alors on peut en avoir un par site web si on veut, hein. Voilà, Quick Connect. Voilà, et là j'ai le code source en fait de mon site statique ici, et je vais aller l'uploader ici. Donc je vais dans site, www route. Donc j'ai déjà une page par défaut qui est là, et j'uploade ça ici. Et à partir de là, bah, j'ai un site exemple qui va contenir effectivement mon site. Alors, où est-ce qu'il est maintenant? Si je vais aller me connecter à ce un site web exemple. Et voilà, j'ai utilisé Website pour faire un website statique. Alors, ah, c'est un où je ne peux pas attendre. Je sais pas, peut-être que tout n'est pas arrivé encore. Bon. Ah voilà, j'étais inquiet. Donc voilà, alors après, ce qu'on peut faire aussi, c'est aller regarder, on peut aller voir les choses d'une autre façon. C'est ici, vous pouvez, un petit truc astuce, vous pouvez taper juste SCM ici. Voilà. Et là, vous vous retrouvez dans une page d'arrière-plan, en fait. Donc c'est parce que je réutilise les clés d'identité qui sont ici, donc qui me permettent d'accéder au site web. Et là, j'ai tout un ensemble de choses que je peux faire. Donc comme par exemple ici, je peux aller dans la console PowerShell, donc qui me permet d'aller par exemple, donc là je peux faire un dir. Je peux aller dans site. Ensuite, hop. Alors, je vais comme ça, W route, content, JS, et puis là, je vais faire par exemple un type de mon app, hop, tabulation, et voilà. Alors, donc là, je vous révèle le code de ce site formidable qui est ici. Et puis bah, là encore, je peux avoir, alors là, je l'ai fait sur un autre site qui est à quel endroit? Voilà, dans celui-ci, là j'ai fait un mapping de nom de domaine. J'ai uploadé un certificat également. Alors, si vous essayez vous, vous aurez un certificat de test. Moi, je l'ai enregistré sur la machine, donc ça se voit quand même. Mais j'ai un certificat, j'ai un nom de domaine, etc. Et donc, je peux également faire donc site 2.34.fr en HTTPS ou en HTTP. Voilà. Voilà, donc là, du coup, je peux attendre en HTTPS. Donc, on a quand même des fonctionnalités assez impressionnantes. Alors, vous l'avez dit, hein, on commence doucement. Hein, donc, et donc, ici, bah, j'ai mon certificat qui est effectivement le certificat que j'ai créé moi-même. Enfin, voilà quoi. Donc, en fait, vous pouvez uploader le certificat que vous voulez. Voilà le message ici. Très bien. Donc, mes papiers me disent que nous devons passer à la deuxième session. Je vous montre. Effectivement, donc en conclusion, on a vu que pour un site statique, on pouvait l'héberger soit dans du blob storage directement, puisqu'en fait on profite du fait qu'on accède en REST au blob. Alors évidemment, c'est plus pour y accéder sous forme d'API. Donc on peut aussi l'utiliser pour héberger des éléments statiques d'un site. Et entre autres, par exemple, on peut, de façon plus réaliste, on pourrait héberger toute la partie statique dans Content et dans Website, avoir la partie dynamique, etc. Donc avoir quelque chose d'hybride entre les deux qui serait tout à fait faisable. Très bien. Merci à nos sponsors, Expert Time, Selenza, The Cloud et Bispark. Je vous propose de passer à la deuxième session. En fait, la session la plus longue de la journée, c'est le déjeuner, qui dure 1 heure. Très bien, donc je vais être rejoint par Cédric Deru, qui est web architecte à Altran. On va vous parler cette fois-ci de sites ou d'API web avec de la base de données relationnelle. Donc vous voyez qu'on monte en puissance doucement. Merci à nos sponsors Expert Time et Selenza. Non, mais c'est sincère. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui dans cette session? Alors, en fait, on va avoir deux types de cas. Le premier cas qui est, j'ai mon utilisateur qui est ici, qui va accéder à de l'HTML qui est généré côté serveur. On verra un peu plus tard aussi le côté API. J'ai une application web qui génère tout, y compris l'HTML, qui renvoie le JavaScript, etc., etc. et qui utilise pour cela une base de données relationnelle. On a également le cas où on a une page, alors par exemple le single page application, où en fait on reçoit ici de l'HTML, et cet HTML est du JavaScript, et le JavaScript va aller appeler une API web, en général en REST, qui va elle-même renvoyer des données venant de la base de données, de façon à ce que le JavaScript puisse l'afficher. Donc ça, c'est un mode de programmation qui se fait de plus en plus et qui a l'avantage de fonctionner pour de l'HTML, du navigateur, mais également pour les applications mobiles. Donc évidemment, on va être dans un cas où on peut avoir l'un et ou l'autre. Très bien. Donc, quels sont les environnements d'exécution de ces différents choses, en fait? Comment est-ce qu'on peut héberger ça? Alors, on a toujours le moyen d'héberger ça dans des machines virtuelles, hein. On a des machines virtuelles dans Azure, comme vous le savez. Windows, Linux. Après tout, il suffit d'aller faire une quinzaine d'apt-get dans un Ubuntu, d'aller copier quelques fichiers, de les modifier 2-3 fois avec un sudo vi, etc. Et puis on va avoir un site web qui va fonctionner. Dans ces cas-là, on va avoir quand même besoin d'un load balancer, on va avoir besoin de certains services qui sont en amont, qu'on va retrouver dans Azure. Donc on va pouvoir faire l'essentiel en machine virtuelle et puis ensuite utiliser quelques services en plus. Souvent, dans les projets, ce qu'on voit, c'est que les gens vont faire ça parce que c'est le meilleur moyen de démarrer ou de reprendre ce qu'on connaît et ce qu'on sait faire. Et donc, c'est un bon moyen de faire ça. Ils ont aussi à cœur de faire en sorte que plus ça va, plus ils puissent tirer parti des services qui déjà font des choses. Par exemple, plutôt que d'installer une machine Windows avec un IIS, etc., peut-être qu'en utilisant Website, on a déjà une ferme IIS as a service. Donc, ça peut simplifier les choses. Ce qu'on va essayer de vous montrer aussi dans la journée, c'est à la fois ce qu'on peut faire avec des machines virtuelles, mais également, parce que ça, à la limite, n'importe qui pourrait vous le montrer, vous le savez peut-être au moins autant que nous, mais ce qu'on veut vous montrer, c'est aussi les services qu'on peut utiliser et qui ont déjà des choses où il y a 80% du boulot qui est fait et il vous reste juste le 80 derniers pourcents à faire. C'est le cas, par exemple, sur Mobile Services pour avoir une API pour des applications mobiles, que ce soit de l'iOS, de l'Android, etc. Il y a même du Windows Phone, d'ailleurs, je crois. Du Websites, comme on a vu un peu rapidement. Et puis, même chose pour les bases de données. On peut avoir des bases de données dans des machines virtuelles, mais on peut aussi avoir des bases de données en tant que service. Par exemple, avec SQL Database, qui est du SQL Server en tant que service. ou avec du MySQL en tant que service fourni par ClearDB qui héberge ces services dans Azure en fait. On peut avoir toutes sortes d'environnements de développement, d'API, de langage. Donc là, on va voir aujourd'hui, alors on verra peut-être pas tous ces cas-là, mais pas mal de choses. Alors dans des machines virtuelles, en fait, au sens exécution de code, on va avoir évidemment tout ce qui est Java et C#, et plus généralement .NET, et Java plus généralement JVM. On a tous les autres langages aussi très classiques, comme PHP, Node.js, Python. Cédric est un spécialiste de PHP, par exemple, donc il va nous montrer ça. Ou du Ruby. Des frameworks, du Xen Framework, du Symfony PHP, de l'ASP.NET MVC, etc. Je ne vais pas tous vous les lire, mais il y en a. En fait, dans tous les langages, on retrouve au moins 1, voire 10 frameworks MVC pour faire à la fois de l'API et du site web. Et puis en environnement de développement, on va avoir aussi une intégration avec des choses comme Visual Studio, évidemment, mais également du Eclipse. On a une intégration assez poussée avec VI, c'est-à-dire que si vous ouvrez une VM, vous pouvez faire VI dedans, si c'est une VM Linux. Mais également les environnements de développement, c'est aussi le gestionnaire de code source, donc Git, qu'on peut retrouver dans Visual Studio Online ou évidemment dans GitHub, du Mercurial, qu'on peut retrouver dans Bitbucket par exemple, du CodePlex, qui peut héberger du Git. Enfin bon, tous ces éléments vont permettre effectivement d'aller déployer directement dans Websites par exemple. La base de données relationnelle, on peut avoir donc évidemment du MySQL, MariaDB, du PostgreSQL, etc. Donc MySQL et Azure SQL Database sont soulignés ici parce qu'en fait, c'est ce qu'on va vous démontrer. Et surtout, on vous les démontre parce que ce n'est pas dans des machines virtuelles ici, là, ce sont des services. Donc très bien. Commençons par Mobile Services en Node.js. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Donc là, je vais avoir la possibilité depuis un site mobile de créer, par exemple, un nouveau mobile service. Donc, create un mobile service. Donc, je vais dire Azure Web Camp. Azure Web Camp. Je vais utiliser une base de données existante qui est sur ici, si je ne me trompe pas. North Europe. Non, c'est pas celle-là, pardon. Est-ce que je l'ai mise? Bon, enfin, je vais revenir sur le site que j'ai déjà créé, peu importe. Donc là, je choisis une base de données existante ou je peux en créer une nouvelle. Donc, je peux créer une nouvelle base ici. Je vais dire que je suis en JavaScript. Je crée le nom de ma base. Je choisis un nouveau SQL Database Server. Donc là, je vais lui donner un nom. Voilà. Hop. Donc là, je crée à la fois la base et le mobile service. Et voilà. Donc là, j'ai ce nouveau mobile service qui va se créer. Donc une fois qu'il est créé, ça prend quelques secondes, on reviendra dessus, j'ai la possibilité de télécharger des applications exemples ou de... Alors, attends, je vais agrandir. Des applications exemples dans différentes plateformes, suivant ce sur quoi je suis en train de développer. Donc, je peux être en train de développer en Windows Store, en Windows Phone 8, en iOS, mais aussi dans des frameworks cross-plateformes, donc comme Xamarin ou PhoneGap, ou Apache Cordova. Voilà. Et donc là, ce que je vais choisir, comme on est plutôt sur du web aujourd'hui, un cas particulier qui est le fait de faire en HTML JavaScript. Donc, ce que je fais, c'est que je crée une nouvelle application HTML. Alors, je peux aussi avoir les instructions pour connecter une application existante. Là, je vais créer une application HTML. Voilà. Donc, il me propose de créer une table to-do item. Donc là, c'est pour montrer un peu comment est-ce qu'on peut faire ça. Alors, si je regarde ici, j'ai déjà ma base qui est là. Donc, on va regarder ici, dans mes tables. Donc là, j'ai déjà pour Azure Camp, 24.6, j'ai déjà une table to-do item, donc c'est pas la peine que je la recrée. Donc ça c'est une base SQL database hein, qui a été créée comme on l'a vu pour l'autre service. Et puis je vais pouvoir télécharger mon application. Donc je vais télécharger, hop. Donc là je sauvegarde. Hop, ça dans. Ouais, je vais le remplacer. Hop. C'est parce que j'ai répété les démos avant, donc j'ai déjà. Voilà, hop, properties. Okay. Et ça, je vais aller bah, l'extraire en fait dans. Je vais le mettre dans C, dev, FSC. Voilà. Et puis bah, là, j'ai mon application locale. Donc si je double-clique sur cette application locale qui est ici, donc j'ai. Donc là, elle est. Purement sur mon disque ici, et que je lance un F12. Donc, alors, on va essayer de faire déplacer ce F12 à peu près à un endroit où on le voit. Voilà, donc ça, c'est environnement de développement ici. Je vais surveiller ce qui se passe ici. Voilà, très bien. Ensuite, je vais rafraîchir ma page. Voilà. Donc là, on voit que effectivement, on a différents appels qui se font ici à mon site. Donc là, j'ai un GET HTTP 200. Donc voilà. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, on va créer une nouvelle tâche. Donc avancer dans la démo, par exemple. Hop. Donc add. Donc là c'est une single page application. Donc qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a fait une web API ici. Donc il a créé un HTTP post, hop, donc avec les request header, le request body, donc il a envoyé un JSON, et puis bah, il a eu un response body qui lui donne l'ID de ce qui a été créé, et puis voilà. Donc ça c'est un moyen assez simple d'avoir en fait du mobile services, enfin d'avoir des web API en fait disponibles. Alors, revenons au slide. Hop. Donc, juste un point pour vous dire comment est-ce que fonctionnent les websites en fait. Donc là, pour l'instant, on a vu mobile services et on va passer à website avec Cédric. Mais avant, je voulais vous indiquer un peu la façon dont ça fonctionne. Donc, en gros, c'est une ferme IIS en tant que service. Mais devant cette ferme IIS, on a un load balancer. Reverse proxy, etc., software, qui s'appelle ARR, qui est un, que vous pouvez installer vous-même d'ailleurs dans un IIS, hein, qui va faire deux choses. Donc, là, c'est la version simplifiée. Après, je vais vous montrer les vrais slides. Donc, l'ARR, quand il reçoit une requête en fonction du nom de domaine, etc., il va dire, bon, est-ce que je retrouve en base de données la définition du site? Une fois qu'il a la définition du site, il dit, j'ai mon serveur de fichiers en fait, si on veut, qui contient la définition du site. Et puis j'ai des fermes de serveurs qui sont déjà démarrées, etc. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer la requête vers le bon serveur. Donc si c'est pas déjà déployé, il va faire en sorte de le déployer. Et donc il va binder le serveur ou les serveurs suivant qu'on est dans une ferme de n serveurs vers le contenu. Et puis il va aller récupérer le résultat de la requête pour le renvoyer au navigateur. Alors la vraie version, vous avez un site qui n'est pas encore actif. Donc ce qui se passe, c'est que vous avez votre requête HTTP qui arrive pour site 1. Donc il va sur le front-end ARR qui va regarder en base de données. Dans la base de données, il va voir quel est, il va désigner un web worker puisqu'il va voir que c'est pas encore déployé. Donc pendant que la requête se fait, il va déployer dynamiquement sur ce web worker. Donc voilà. Ensuite, donc il va binder ce web worker avec cette base-là. Il va lui envoyer le site 1 avec son file server. Et puis, le site 1 va être relié, par exemple, donc là, c'est le site qui est relié à une base Azure SQL, database, et voilà. Donc, ça renvoie les choses. Ensuite, deuxième chose, donc là, le site est déjà déployé. Donc, en fait, en allant dans la base, il va savoir, enfin, au niveau d'ARR, il va savoir que c'est sur ce web worker-là qu'il faut envoyer les données. Et donc, il va faire la même chose que tout à l'heure, sauf que là, il n'a pas le déploiement à faire à chaud. Très bien. Donc voilà comment est-ce que fonctionne Website en quelques mots. Je passe la parole à Cédric qui va vous montrer comment est-ce qu'on l'utilise avec du PHP. Faut que tu enlèves mute. Alors. Allô? Sinon, je t'en passe un autre. Hop. On va faire en direct. Comme ça.
C'est beaucoup mieux. Donc merci, merci Benjamin de me recevoir dans ce bel auditorium pour ces quelques démonstrations autour de PHP et Azure. Donc, sais-tu Benjamin, en fait, ce qui se passe lorsqu'on met un éléphant et un dauphin sur un nuage?
Non, j'ai pas
Non.
essayé.
Bah, on va obtenir en fait un site PHP MySQL sur Azure Website, par
D'accord.
exemple. Donc, pour comprendre comment c'est possible, en fait, je vous propose une première démonstration très simple. Donc, je vais me rendre bien sûr dans mon portail Azure et je vais commencer par créer un nouveau site web Azure en passant par une création personnalisée, tout simplement pour pouvoir en fait rajouter une base de données MySQL, lier une base de données MySQL à mon site PHP. Alors, je vais lui choisir un nom. Alors, ce nom doit être unique. Donc, ça ne marche pas parce que je l'ai déjà pris. Donc, je vais prendre Hello Azure non plus. Il est pris. Eh ben.
On a tout pris, hein.
Vous avez tout pris?
Ouais.
Allez, on va changer de nom.
Je crois que Schlarmler qui n'est pas pris, mais.
Non, mais c'est pas possible.
Non, je crois qu'il ne faut pas mettre de tiret.
Ah, j'en ai mis l'autre jour, ça marche normalement. Alors, ça marche non plus. Ah, il y a un souci là. Attends ce qu'on va faire. Ah, d'accord, c'est normal.
Ah.
J'ai peut-être juste oublié de mettre le réseau. Voilà.
Ça, c'est un des besoins
Des besoins majeurs. Je crois que j'étais
avec
en
le
Wi-Fi.
cloud, c'est d'avoir Internet.
Je pensais que le Wi-Fi marchait, mais non, a priori, non. Hop. Voilà qui est mieux. Donc, je disais, on va créer un nouveau site web. J'attends que ça arrive. Normalement, les tirets, ça marche. Voilà, Hello Azure 7, par exemple. Donc, pour la base de données MySQL, je vais prendre une base de données MySQL déjà existante pour aller un petit peu plus vite. Mais bien sûr, vous avez la possibilité en fait, de créer une nouvelle base de données MySQL. Donc, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire depuis ce portail. Donc, ici, je prends ma base. Je valide ma demande de création. Vous allez voir en quelques secondes, le portail Azure va me créer donc, mon nouveau site donc, que je devrais retrouver ici en bas. Donc, si je me rends à l'intérieur de l'administration de mon site, vous allez voir donc différents onglets. Hein. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, sinon on n'aura pas le temps. Mais par exemple, on va pouvoir configurer un certain nombre de choses, comme par exemple la version du framework PHP. Donc ici, on a déjà trois versions disponibles, 5.3, 5.4, 5.5. Mais pas que ça, vous allez pouvoir aussi, par exemple, activer les WebSockets ici, et puis plein d'autres choses comme la modification dans Visual Studio Online. Donc une nouveauté, je crois, qui sera abordée tout à l'heure dans l'après-midi. Donc, la deuxième étape, ça va être en fait d'ajouter du contrôle de code source à mon site. Donc, je vais cliquer ici et je vais choisir en fait un référentiel Git local. Donc ça va en fait me mettre à disposition une URL que je vais pouvoir en fait utiliser pour cloner en fait le repo Git sur Azure, donc en local sur mon poste. Donc, je vais aller dans mon terminal Git. Donc, bien sûr, n'oubliez pas si vous voulez refaire la manip chez vous, donc d'installer un client Git, donc celui-ci ou un autre. Donc si je lance un clonage avec la commande git clone, tout simplement donc en utilisant l'URL vue précédemment, donc là on me demande de m'authentifier, c'est normal. Voilà, donc là il me dit par contre, tu viens de cloner un repository vide, c'est tout à fait normal puisque je n'ai pas encore ajouté de source dans mon site. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Donc je vais aller dans mon clone. Le Azure 7, comme ceci. Donc là, je suis positionné sur la branche master. Je vais rajouter un fichier index.php, donc quelque chose de simple. Voilà. Et maintenant, je vais modifier ce fichier index.php. Hop. Donc pour ça, vous utilisez votre éditeur de texte PHP favori. Donc moi, ça va être ZenStudio. Je crois qu'il est déjà lancé, c'est bon. Donc là, mon fichier, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un snippet de code donc, qui est tout à fait banal. Hein. Donc on instancie une connexion à une base de données MySQL, donc en l'occurrence celle que j'ai déclarée lorsque j'ai créé mon site sur website. Et puis on va simplement faire un fetch sur une table de tasks. Donc on va rester dans les to-do items, on ne change pas de registre. Donc cette table, je l'ai remplie préalablement, bien sûr, pour avoir des données. On fait le fetch et on affiche. Hop, donc je copie ça dans mon fichier index, voilà. Si je retourne dans ma console Git maintenant, pour les connaisseurs, faites un git status, donc on voit qu'effectivement, j'ai un fichier non traqué pour l'instant, donc je vais le rajouter à mon index PHP, à mon index pardon Git, pour faire en sorte de le committer juste après. Donc voici.
Git donc là, commit. Tu commites localement dans ton Git.
Voilà,
local.
Je commit localement. Donc first commit. Donc ça c'est bon, mais c'est pas tout, parce que maintenant je vais pouvoir voir le résultat sur mon site web. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser en fait Git pour publier mes sources. Donc quand j'ai cloné tout à l'heure, en fait, voilà ce qui s'est passé. En fait, j'ai un tracking sur un alias nommé origin qui pointe sur le repository Git d'Azure. Donc il ne me reste plus qu'à faire git push origin master. Donc ça va en fait déclencher la publication. Donc il y a un hook hein, qui va se déclencher. Donc voilà. Donc ça va très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de fichiers. Donc Emix est fini. Donc maintenant, si tout se passe bien, je n'ai plus qu'à retourner dans mon portail.
Donc là, c'est comme le FTP que j'ai fait tout à l'heure, mais en pro, quoi.
Voilà. Donc vous avez le bouton parcourir, par exemple, qui permet d'aller visualiser donc le site, et voilà, tout se passe bien, j'ai un petit message Hello Azure, et donc ma liste de tâches ici avec mes puces, voilà, pour cette première démonstration.
Très bien, si on peut passer juste sur la slide rapidement avec l'éléphant et le dauphin, de façon à ce que, voilà. Donc Cédric, c'était l'éléphant et le dauphin dont tu voulais parler tout à l'heure, j'imagine.
Oui, bon, ça c'était juste pour justement la fameuse devinette. Donc voilà, ça c'est pour récapituler tout ce qu'on vient de faire. Donc ça, c'est la base hein, finalement, quand on veut commencer un nouveau site avec PHP. Donc vous pouvez passer par ce chemin-là, ça marche très bien comme vous avez pu le voir. Alors moi j'arrive de Lyon, hein, je suis là depuis hier, donc si vous avez l'occasion vous de venir à Lyon, n'hésitez pas à nous rejoindre lors des sessions de la MUG à Lyon, donc le Microsoft User Group, voilà, ils sont accrochés là-bas.
Hey, on a tout un groupe de Lyonnais là.
Tout un groupe, ils sont nombreux. Ah, c'est marrant parce qu'en plus il y a des gens de Microsoft qui sont partis à Lyon, tu m'as dit hier, pour le PHP Tour, donc en fait on a changé des otages, c'est bien. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, donc le 26, on a une session sur le DDD, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc, alors, ça, c'est la deuxième démonstration. Ce que vous avez vu là, donc bien évidemment, ça constitue pas une application PHP en tant que telle. Hein, c'est quelque chose d'assez sommaire. Donc, pour vous montrer quand même ce qu'on peut faire en termes de possibilités d'application PHP, la deuxième démonstration, en fait, c'est vraiment une application complète, ou presque, que je vais vous montrer. Où là, en fait, j'ai créé en fait une web API PHP en utilisant donc Zen Framework 2, plus particulièrement un outil qui s'appelle Apigility, qui est en fait une interface qui va permettre rapidement de... Ah, on n'a pas l'affichage, pardon. Voilà.
C'est un éléphant avec une fusée.
Un éléphant avec une fusée. Donc, je vais juste avoir mon poste, si possible.
Ah oui, ouais. Si on peut basculer sur ton poste,
Cédric. Voilà. Donc, Apigility, donc, qui va permettre en fait, de modéliser en fait, une API web donc, en PHP, donc, basée sur Zen Framework 2, donc, sur des REST contrôleurs Zen Framework 2. Donc, cet outil qui est nouveau donc, est vraiment très pratique parce qu'on va pouvoir faire plein de choses. On va pouvoir gérer donc, des API, comme je viens de le dire, mais on pourra aussi les versionner. Donc, ici, donc, il n'y en a qu'une version, mais on peut en rajouter d'autres. On va pouvoir gérer tout ce qui est autorisation. Donc là, ici, par exemple, on peut gérer si c'est requis, pas requis, mettre des filtres, des validateurs, donc pas mal de choses. Donc bon, le but, c'est pas de vous faire une démonstration de cet outil, c'est tout simplement de vous dire voilà comment je suis parvenu au résultat. Donc le résultat, c'est le suivant. Là, voici mon API. Donc ici, j'ai donc en fait une API hypermédia. Donc ça, pour ceux qui connaissent le modèle de Richardson, c'est ce qui correspond au degré de maturité le plus élevé lorsqu'on a une API. Cette API hypermédia, tout simplement, elle permet d'afficher donc, du contenu avec des hyperliens, ce qui facilite notamment la navigation d'une donnée à une autre, par exemple, ou de gérer de la pagination, etc., etc. Donc une API, c'est bien, mais pour que ça soit plus sympa en termes de rendu, c'est bien de pouvoir la consommer. Donc, je vous ai préparé dans un coin donc, une petite application mobile, donc visible ici dans un simulateur. Le simulateur, il est parti où ? Il est là. Voilà. Donc, on est dans un simulateur Windows Phone. Donc ici, c'est une application donc, mobile hybride. Donc, c'est fait en fait avec le triptyque HTML, CSS3, JavaScript. Et c'est encapsulé avec PhoneGap ou Cordoba pour déploiement sur mobile. Donc, ici, si je fais un refresh, par exemple, au niveau de mon application, si je regarde en fait ce qui se passe au niveau justement de mon réseau, je vois bien que mon API est consommée, donc avec un GET, pour pouvoir afficher donc, la fameuse liste ici. Si je veux faire une nouvelle tâche, donc je clique sur New. Qu'est-ce que je vais mettre Réussir ma démo, c'est mieux. Hop, c'est la panique. Donc, si je fais Ajouter, hop, donc cette fois-ci, voilà, j'ai une requête en poste qui est partie. J'ai pas vu le rafraîchissement par contre. On va faire un reload, ce sera mieux. Ok. Hop. On va faire ça ici. Donc ma tâche doit se retrouver quelque part par là.
C'est peut-être voilà, la pagination.
Ok. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, on peut vraiment sur Azure Website déployer des petites applications, aussi des grosses. Donc, si vous voulez voilà, faire. On est tout à l'heure, hein, on est sur l'ère du mobile first, du cloud first. Donc, voilà, déployer des API pour la mobilité notamment, c'est quelque chose de possible sur Azure. Donc, PHP ne fait pas exception. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir déployer. Ici, c'est fait avec Zen, mais bien sûr, si vous avez l'habitude de déployer des API, donc en utilisant plutôt les frameworks style Symfony ou d'autres. Donc, comme a dit Benjamin, c'est possible aussi. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous rendre sur Azure pour ceux qui sont en phase de découverte pour faire vos propres démonstrations. Merci.
Très bien. Tu veux peut-être nous commenter juste la slide si on vient sur mon poste, sur l'éléphant et la fusée. Mais c'était peut-être. Cédric, c'était juste pour décrire ce qu'on avait fait là.
Voilà, donc ça c'est la slide de synthèse. Donc effectivement, donc Apigility par Zen Framework. Je vous conseille vraiment, c'est vraiment très pratique. C'est vraiment un outil en mode RAD pour faire des API avec le PHP. Donc tout ça déployé sur Azure Website. Et donc en face, une application mobile hybride, donc HTML, CSS, JavaScript, grand classique, et Cordoba pour encapsuler le tout et déployer donc, sur un store par exemple. Donc, sur multiplateforme, bien évidemment. Donc, voilà.
Parfait. Très bien, donc on enchaîne sur une autre démo où là ce qu'on va faire c'est même chose, le même principe, des web API mais en ASP.NET et vers une SQL database. Donc en fait j'ai du code qui se trouve ici dans cette solution là. Donc j'ai deux exemples de web API, une web API REST classique qui s'appelle My Simple Web API. Et une API en OData qui s'appelle My Sample Web API pour que vous restiez attentifs. Donc si on les après j'ai déployé ça dans Websites. Alors, hop, on va revenir ici, on va dans Website. Voilà, et donc j'ai mes deux API déployées sur mes deux website, donc mysamplewebapi.azurewebsites.net et mysimplewebapi.azurewebsites.net. Si on regarde sur celle-ci, par exemple, ce qu'on voit, c'est que dans les linked resources, on a miskdb2, donc qui est une base dans laquelle je mets diverses choses, comme l'indique son nom. Donc ça, c'est quand on crée un site web, en fait, on va retrouver dans les linked ressources le miskdb02 qui est ici. Sur My Simple Web API, normalement, on a la même linked ressource, puisqu'en fait, les deux pointent sur la même base de données, ce qui est une façon d'exposer les mêmes choses des deux côtés. Donc, on va retrouver ici, donc elle est ici, cette base. Hop. Dans database, donc je peux y accéder, hein, ma base de données Azure SQL Database. Donc aujourd'hui, on essaye de faire le focus surtout sur des choses un peu nouvelles. Hein, donc SQL Database, c'est quelque chose qu'on a déjà montré une ou deux fois dans des camps, je pense. Donc le focus n'est pas spécifiquement là-dessus. Juste pour vous donner, donc pardon, c'est sur celle-ci. Donc j'ai ma base qui est ici, donc je peux y accéder avec un SQL Server Management Studio par exemple, ou depuis Visual Studio, etc. Donc j'ai un certain nombre de tables, dont par exemple la table des cours et des départements, par exemple, que je vais utiliser avec la Web API. Et puis un autre que je vais utiliser, Product Rating et Suppliers, que je vais utiliser pour l'API OData. Donc ça c'est déployé sur Azure Websites. Ce qui est intéressant, c'est quand on va déployer, par exemple ici, quand je vais faire un publish, donc depuis Visual Studio, de ma web API, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment dans le processus de publication, qui est ici, il va détecter que dans mon web.config, j'ai une chaîne de connexion vers une base de données qui va être typiquement locale, où je vais avoir mon localDB en localhost. Hein. Et donc, dans le processus de publication, il va me proposer, parce que j'ai en linked ressources ma base SQL, il va me proposer la chaîne de connexion de cette base de destination. Et du coup, il va aller modifier le web.config dynamiquement lors de la publication, de façon à ce que je pointe sur la bonne base une fois en production sur Azure Websites. J'en profite d'ailleurs pour dire que sur Azure Websites, il y a également la possibilité d'avoir un mode staging. Je ne pense pas qu'on va le montrer beaucoup aujourd'hui, mais c'est une des possibilités. J'en profite pour l'indiquer. Donc ici, en fait, ce que j'ai, c'est que j'ai un. Dans les deux cas, que je sois en Web API ou en OData, ici sur la version OData, j'ai un modèle. Donc je suis en code first, c'est-à-dire qu'en fait, je commence par décrire les différentes classes que j'ai, et puis donc soit je suis en POCO, donc en plain old C sharp object, soit je peux aussi annoter, enfin rajouter des annotations, et donc là je vais décrire en fait mes tables comme ça, donc Ici, j'ai par exemple un ID en entier, un name, un price, etc. Bon, bref, une fois que j'ai fait ça, je lance des commandes dans une console PowerShell qui est intégrée dans Visual Studio pour pouvoir aller mettre à jour la base de données et donc créer cette base de données. Donc, ça va exécuter des choses qu'on retrouve dans Migration qui est ici. Bon, peu importe cette partie-là qui est plus liée à Entity Framework, donc l'ORM .NET. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le fait de pouvoir créer une API. Donc en fait, la façon dont j'ai créé, par exemple, Product Controller qui est ici, j'ai juste dit j'ajoute un contrôleur. Donc je suis dans un modèle de MVC. Hein. J'ajoute un contrôleur et je veux créer un contrôleur au data. Donc je vais faire add. Alors avec Entity Framework et des actions pour faire le CRUD, hein, typiquement. Et là, je vais choisir le... Donc là, par exemple, je pourrais le faire sur Suppliers, par exemple. Sur Suppliers. Et puis là, il va me dire... il va me demander les classes sur lesquelles je veux pointer. Je fais Add et j'obtiens la classe qui est ici. Donc avec le code qui a été généré. Donc entre autres, j'ai par exemple un put pour aller mettre à jour le produit numéro 5. J'ai un put au data qui est ici. Donc très bien. Alors accédons à ça avec un client REST. Et dans les clients REST, il y a entre autres Fiddler, qui est un outil que j'aime bien utiliser. Par exemple, là si je vous montre sur l'API simple donc REST, j'ai Courses. Donc ça, donc les cours qui sont dans les départements. Donc si j'exécute ça, pardon, je vais faire ça, exécute. Donc là, je vais obtenir un 401. Alors c'est parce que j'ai mis une authentification basique sur mon site web. Je vous détaille pas comment, mais je vous expliquerai pourquoi plus tard. Et donc il faut que je rajoute mon authentification basique et je l'ai ici. Alors l'authentification basique, hein, c'est juste un header avec autorisation .basique et puis ensuite username .password. Alors je vais même vous révéler le username et le password, si vous voulez, qu'on peut avoir dans un outil qui s'appelle Text Wizard ici. Là je dis from base 64 et donc voilà, là j'ai le username qui est API Management Service Account et le mot de passe qui est Karch.Nutron. J'espère que vous n'allez pas le retenir. À la limite, c'est peut-être plus simple de retenir la chaîne en base 64. Hop, on va faire exécute et hop. Donc voilà, là j'ai un HTTP qui est ici, donc j'ai accès à mes différents éléments, composer, voilà, je peux rajouter un accept header, donc je dis que je le veux pas en JSON mais en XML, hop. Pourquoi je... Non, bah, je vous le montrerai plus tard, je sais pas pourquoi il marche pas celui-là. Peu importe, donc je peux accéder aussi, alors je vais le remettre en JSON. Hop. Voilà. Departments, donc les départements. Hop. Voilà, en 200. On va essayer celui-là en XML. Il marchera peut-être mieux. Oui, c'est parce qu'en fait, en XML, là, j'ai une limite parce que j'ai des classes héritées. Enfin, bon, des choses comme ça. Alors. Très bien. Donc après, je peux faire des posts. Je peux faire des. Donc si je fais, par exemple, pour le département. Ici j'ai ce département là, donc je vais le demander en JSON, on va faire des choses modernes, hein. Donc le JSON étant le nouvel XML, donc je peux le voir ici, donc là très bien, j'ai un département, alors je vais demander juste un seul département, le département 1, hop, maintenant je regarde mon département 1 ici, zut, c'est là que je veux le row. Hop, et voilà. Donc, très bien. Et puis maintenant, je vais créer un nouveau département. Donc pour créer un nouveau département, je fais la même chose en post. Je dis que je le fais dans la liste departments. Le request body, donc ça va être ça. Hop, un petit coup de mal au cœur. Ça va, vous tenez? Avec le zoom it. Science et informatique. Hop, allons-y. Donc on crée un post, voilà, là-dessus, et puis on va dire que le content type, type, je ne sais plus si c'est avec un tiret ou pas, content type, c'est de l'application JSON, et je crée ça, je ne sais pas, c'est content type avec un tiret, sans doute. Voilà, et donc je reçois un HTTP 201 qui me dit que ça a été créé et que l'ID qui a été créé, c'est l'ID 5. Donc j'ai un département numéro 5 maintenant et je pourrais le requêter, etc. Alors passons à la partie plutôt au data maintenant. Donc là, je passe de my simple website à my sample website qui là est en au data. Au data, je regarde mon authentification, je vire ça, je vais faire un get. Hop. Et alors, au data, c'est, vous pouvez aller à audata.org, en fait, pour avoir les specs de ça. Je vais virer tout ça, là, ça sert à rien. Et vous allez avoir, effectivement, le fait que là, j'ai... Alors, donc, en fait, c'est un... C'est une API REST qui s'appuie sur AtomPub, mais avec des choses qui sont spécifiées de façon assez assez détaillée, sur entre autres pouvoir dire je veux faire, je veux avoir par exemple tous les produits sauf les deux premiers, etc. Donc par exemple si je veux faire odata slash products, hop, je peux dire que je veux juste virer les deux premiers, point d'interrogation, skip. Dollar skip égale 2. Voilà, donc là où j'avais les produits 1, 2, 3, etc. Si je fais skip 2, j'ai juste les 3, 4, 5, etc. Donc c'est assez pratique. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire. Et entre autres, ce que je peux faire sur products, je peux lui mettre au data égale verbose ici sur products. On va dire hop. Et du coup, j'ai moi aussi des URL, il n'y a pas de raison, ici, avec tout un tas de choses pour dire où est-ce que je peux aller voir, par exemple, le supplier suivant, etc. Donc l'intérêt de OData, c'est aussi que ça peut s'utiliser directement dans Excel, par exemple. Parmi les clients OData, il y a de l'Excel. En Power Query, je vais faire from OData, voilà. Et alors pourquoi il est allé directement, il connaît la démo tellement par cœur qu'il ne m'a même pas demandé. Je ne sais pas pourquoi. Et donc je vais pouvoir interroger comme ça. Donc je ne vais pas avoir le temps de vous montrer, mais enfin croyez-moi, vous êtes capable de récupérer les différents produits comme ça. Voilà. Vous pouvez aller étendre les choses. Par exemple, je veux tous les ratings. Donc ce qui m'intéresse, c'est juste par exemple. Les ratings et puis les suppliers, ce qui m'intéresse, la clé, je m'en fiche, mais le name du supplier. Donc j'ai Contoso, Fabrica et Adatom, hein, pour ceux qui connaissent Microsoft, qui sont ici. Et je vais pouvoir récupérer le contenu de mes données via ma web API au data. Donc parmi les clients, évidemment, l'intérêt de faire des web API, c'est que vous avez évidemment un grand nombre de clients, que ce soit des... que ce soit des applications mobiles, évidemment de l'HTML JavaScript, mais également Excel, par exemple. Donc, très bien. Alors, passons à la suite. Donc, ensuite, on a des cas où ça ne rentre pas forcément dans Websites. On n'est pas bloqué pour autant. Hein. On va pouvoir utiliser toute partie. Par exemple, on veut très bien avoir, par exemple, du Ruby. Là, on va le faire dans une VM. Donc, on va avoir du Ruby on Rails et du PostgreSQL dans une VM, tout ça va tourner merveilleusement bien en dev test. Si vous voulez avoir, par exemple, la façon dont on peut le faire, vous pouvez aller chercher dans un moteur de recherche. Vous prenez celui que vous voulez, mais il y a une indication. Vous cherchez Ruby PostgreSQL Azure et vous trouverez des informations là-dessus. Après, Sur la partie montée en charge, haute disponibilité, etc. Si vous avez du MySQL, donc sur la partie base de données relationnelle, si vous avez du MySQL relationnel, ou évidemment relationnel, du MySQL, dans ce cas-là, vous pouvez, par exemple, sur ClearDB, ils ont différentes offres, donc vous pouvez aller voir les différentes offres qui sont disponibles avec du MySQL redondé. Vous pouvez aussi le mettre dans une VM, mais dans ce cas-là, il faut que vous vous chargiez de monter le cluster, etc. Sur la montée en charge, vous avez la possibilité aussi d'avoir de l'auto-scaling dans Websites. Donc, ça se présente, vous allez dans l'onglet Scale du portail. On n'a pas le temps de vous montrer dans le détail, mais vous avez la possibilité, par exemple, de dire en fonction de la CPU, je veux varier entre une et six instances de VM et je veux que la CPU soit entre 60 et 80% à peu près. Vous avez la même chose dans Mobile Services, sauf que là, c'est un niveau plus applicatif. Donc là, c'est en fonction du nombre d'API calls que vous allez effectivement augmenter les unités d'exécution. Sur les VM aussi, vous pouvez faire de l'auto-scaling. Alors, c'est du scale-out, hein. Donc même principe. En fait, vous allez dire, en fonction de la CPU, des VM, je vais rajouter des VM. Et donc, ça vous permet d'avoir ce genre de. Enfin, vous pouvez avoir après, effectivement, des fermes web. Donc, pour ça, vous avez aussi l'intérêt donc d'avoir ces VM dans Azure, c'est aussi que vous bénéficiez de services qui vont autour. Donc, typiquement, par exemple, un service de load balancing qui est inclus dans l'utilisation des VM. Donc, là, par exemple, si j'ai deux Nginx, ils vont être load balancés comme ça. Donc, on va les voir dans le portail sous cette forme-là. Donc, le fait que leur endpoint sur le port 80 soit dans le même load balance setname qui est la web farm. On va avoir évidemment le fait de savoir si on est toujours dans la ferme ou pas en fonction du fait qu'on arrive à faire une requête sur le port 80 ou pas. Le fait de pouvoir mettre ces différentes machines, on va les mettre pour la haute disponibilité dans un même groupe. Donc on va dire toutes ces machines, elles ont le même rôle. Par exemple, là, ces trois machines-là, elles ont un même rôle qui est le fait de faire tourner Cassandra. Alors, sauf que j'ai oublié de changer les noms, mais c'est X1, X2, X3, comme ici. Donc là, par exemple, ces trois machines sont dans un même AV 17 Cassandra, ce qui veut dire qu'elles vont être hébergées sur des machines physiques proches, mais différentes, de façon à ce que si une machine physique tombe, l'ensemble du service puisse continuer d'être rendu. Donc c'est ce qui fait qu'on peut arriver à des architectures comme ça ensuite où on va avoir du Ruby PostgreSQL distribué comme ça sur plusieurs VM, là par exemple avec deux VM en frontal et NVM pour mon cluster PostgreSQL. Très bien, donc en conclusion, on a vu qu'on pouvait héberger dans Websites, dans les machines virtuelles et avec les services qu'on a en amont des site dans différents langages. Donc là, on a vu du PHP, on a vu du .NET. On vous montrera un peu de Node.js aussi avec Mobile Services. Et on vous montrera d'autres choses.